Donc voilà, je sais pas, je sais que récemment l'association a reçu la visite de Claude Besson.
Là, ça fait un petit moment.
Ah, ça, c'était l'année dernière peut-être.
Oui.
Alors c'est un homme d'église qui est basé vers du côté de Nantes. Je crois que c'est un ancien moine. Alors je me rappelle, j'aurais peut-être dû réviser sa biographie avant de venir. Mais en tout cas, c'est un homme d'église, très engagé dans l'église. Je me demande s'il n'a pas une vocation au départ. Il a écrit un bouquin qui a été publié en 2012. Ah oui, voilà. Qu'il a écrit en 2012 et qui propose vraiment une vision qui correspond beaucoup à mon point de vue personnel sur la foi et l'homosexualité, notamment dans le christianisme. Et que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Homosexuel catholique, sortons de l'impasse ».
Non, oui, c'est ça.
C'est ça, hein. Et que j'avais lu, donc, il venait de sortir à peine que je l'avais lu. Et qui proposait enfin une vision pragmatique de l'homosexualité, de la foi, qui avait enfin un discours nuancé et non plus idéaliste. Et c'est une lecture que je vous recommande vraiment. Parce qu'il pose les vrais problèmes de l'homosexualité et de la foi. Et je pense qu'il touche du doigt vraiment des points essentiels, qu'il a un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus à la portée de l'ensemble des catholiques homosexuels français, finalement. Et en tout cas, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans son discours... qui est toujours très nuancé, où il rappelle que le célibat, c'est aussi une question de vocation, et que tout le monde n'est pas appelé, et que finalement, il faut étudier des façons d'accueillir le phénomène, parce que dans toute communauté humaine, il y a des homosexuels, donc chez les chrétiens, ne dérogent pas à la règle. Et donc, il faut réfléchir à une façon de les accueillir mieux, sans leur dire, sans stigmatiser et sans leur dire que, parce que en plus, d'une part, on déconseille aux homosexuels d'aller vers la vocation du sacerdoce.
C'est pas qu'on déconseille, c'est
on les interdit.
C'est
et voilà, il y a eu un parti pris là aussi où. Et de l'autre côté, on dit qu'on doit vivre le célibat, donc c'est même finalement, même dans une religion comme la nôtre, c'est très très dur de trouver, quand on est homosexuel chrétien, quand on est jeune en plus, de trouver et qu'on aime profondément Dieu, de trouver le juste équilibre et de savoir se placer au milieu de tout ça. Ben, ne serait-ce que pour en parler aux autres, de toute façon.
Avec tout ce que tu as vécu, si maintenant tu rencontrais un jeune musulman homosexuel et qu'il ne serait pas du tout question qu'il devienne chrétien, qu'est-ce que tu lui dirais ?
J'avais la même question dans la tête.
Ah, ouais. Okay. Je vais répondre
deux. Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il réussisse à vivre le fait qu'il est musulman et le fait qu'il est homosexuel ?
Bah déjà, il y a beaucoup de musulmans qui le vivent, qui arrivent à concilier bon an, mal an, ces deux identités, déjà. Après, oui, il y en a qui sont forcément, j'imagine, en conflit avec ça. Qu'est-ce que je lui dirais ?
Il y a une association qui existe,
Homosexuelle
de France.
Ouais, depuis 2010, je crois.
Ah,
ouais, ça c'est.
Ils ont un très beau site. Ouais. C'est bien ce qu'ils font, enfin, ouais.
Vraiment.
Oui.
Homosexuel,
mais
du monde
de France. H2MF. H2MF.
Non, H2MF.
H2MF.
Ah oui. Et qu'ils existent, ouais, c'est récent. Hein.
Oui, c'est les musulmans assez libéraux, je crois.
Oui, oui.
Plutôt.
Ouais.
Et vis-à-vis, est-ce que de temps en temps tu as envie de parler du Christ à des musulmans ?
J'en ai récemment parlé avec un collègue de travail qui est musulman. C'est vrai que nous, entre musulmans, on parle facilement de foi. On parle facilement de Dieu. On parle. Alors, des fois, on peut sentir dans le monde du travail une espèce de distance, même avec des chrétiens, finalement. On distingue bien la sphère professionnelle de la sphère privée et spirituelle. Vu qu'on doit rester cantonné dans le privé, n'est-ce pas ? Mais avec les musulmans, c'est vrai que le sujet est facilement abordable. Et je l'ai abordé récemment avec un collègue musulman. Et, écoutez, ça s'est très très bien passé. Je pense qu'au contraire, ils peuvent être très certains. Alors, je parle pas pour tout le monde, hein, mais certains peuvent être vraiment intrigués. Surtout que je connais très bien l'islam, donc avec un musulman, je peux parler de l'islam sans avoir besoin aussi de parler de christianisme. Et que je la connais, l'islam, c'est une religion que je connais de façon personnelle, familiale, intime, et aussi j'ai aussi cette dimension universitaire, parce que c'est quand même une formation. Je suis quand même allé jusqu'au niveau master à l'université sur ces thématiques-là, donc C'est une religion que je connais très bien, donc, et ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de replonger dans mes racines. Et dans d'ailleurs, j'ai envie de dire que j'ai pas ressenti de scission, de séparation entre l'islam et le christianisme, entre mon passage d'une religion à l'autre. Je pense que ça a été un passage dans le désert, mais c'est le même Dieu. J'ai vraiment l'impression que c'est le même Dieu et que j'ai l'impression que tout ne fait qu'un, en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là et je ne ressens pas de différence.
Tu n'as pas ressenti la nécessité de renier
De tourner la page en... J'étais quelqu'un d'assez pratiquant.
De renier. Vraiment ?
Non. Voilà. Ah non. Et d'ailleurs, je m'étonne.
Tout à l'heure, je voulais que tu
voilà, bon, on y arrive. Et d'ailleurs, j'ai rencontré récemment, parce que j'ai passé Noël à Rome avec un ami chrétien, qui avait deux amis à lui qui étaient sur place. Donc on s'est retrouvés à quatre pour la messe de minuit sur la place Saint-Pierre. Donc on échangeait sur le sujet. Cet ami est d'origine algérienne, et il a 27 ans. Et donc à peu près le même âge que moi. Et il me dit que l'islam est une hérésie. Alors lui, ça fait 5 ans qu'il est converti, et il a ce discours effectivement de reniement et de négation de ce qui a précédé. Alors moi, je respecte son point de vue, hein, mais moi, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'avais un rapport avec Dieu et avec le concept de vérité qui n'était pas hiérarchique.
Qui n'est pas lié à la religion.
Voilà, pour moi, il n'y a pas de religion qui est supérieure à une autre. Pour moi, il y a des chemins. Je reconnais effectivement que il me semble, moi, Zacharia, je parle que pour moi, que à travers la religion chrétienne, Dieu a beaucoup donné de lui-même et qu'il y a beaucoup de lumières divines qui sont passées dans cette religion. Mais je pense qu'il y en a... Il y a aussi les autres... Moi, je parle comme musulman, où j'avais une connaissance... Enfin, j'avais un lien avec Dieu qui était... L'une des choses qui m'a retenu pour passer à Jésus, c'était l'équilibre spirituel que je remettais en question. Donc, je crois que vraiment l'islam a un vrai message, a une vraie connaissance de Dieu, a un vrai, et que c'est un vrai chemin qui mène à Dieu. En tout cas, moi, c'est le... Donc, du coup, quand je parle avec un musulman, forcément, pour moi, ça reste un frère, c'est pas un hérétique. Quand je parle aux musulmans, j'ai l'impression de parler à un frère.
Est-ce que l'inverse pourrait être vrai ? Un musulman pourrait vous considérer comme un frère en ayant eu cette conversion au catholicisme ?
Ben j'en ai rencontré un, donc oui. Récemment, qui me disait que qui me considérait comme un frère parce que lui aussi était passé au catholicisme. Donc on a la même religion, on est frères en Christ, mais qui considérait l'islam comme une hérésie.
Oui, mais l'inverse.
La question inverse
que je veux dire. D'accord. Je me suis mal exprimée. Je veux dire que, d'abord, je ne sais pas si vous diriez à quelqu'un, il faudrait bien le connaître pour ça, mais quelqu'un qui est resté musulman, il vous considérait comme un frère parce que vous avez la même religion d'origine ou la même famille d'origine, etc. Mais,
je ne sais pas s'il me considérait comme un frère.
Ben voilà, c'est pour ça que c'était ça ma question.
Je ne sais pas. En tout cas, moi, oui. Voilà. Moi, pour moi, on quelque part, on appartient à la même famille. Puis, étant resté très proche de cette religion, je ressens une fraternité, je ressens un vécu commun, tout ça. Mais lui, alors...
Dans le sens inverse, voilà, c'est ça.
C'est sûrement moins vrai, parce que je vous dis, on a une vision du Christ dans l'islam qui est très, très orientée. Qui est très orienté vers une interprétation théologique qui oriente beaucoup la personnalité du Christ vers son humanité. Et pour le coup, en niant sa divinité. Donc,
ça dépend.
Je pense qu'on ne peut pas généraliser.
Ça dépend sans doute des musulmans.
Ça dépend des musulmans.
Mais voilà, il y a certainement des musulmans qui sont en soi totalement incapables. Et puis certainement, moi, j'ai connu des musulmans qui m'ont dit, qui prenaient plaisir à échanger avec moi, parce que j'avais la foi, et que c'était ce point commun entre musulmans et moi catholique qui faisait qu'on pouvait échanger. Donc, ils étaient reconnaissants de cette proximité qui fait que l'un et l'autre, on est la foi.
Oui, on sent qu'on puise dans un fond commun. On sent qu'on puise dans un fond commun et qu'on a une connaissance commune de Dieu, enfin un rapport proche à Dieu. Après, il y a des notions et des points qui font polémique entre les deux religions. Et je dirais même que le phénomène, je crois que cette histoire de polémique, c'est plus un phénomène humain. Parce qu'on le retrouve entre le christianisme et le judaïsme, pour des raisons d'ailleurs très proches. Le Christ, fils de Dieu, c'est ce qui a valu le blasphème, était considéré comme un blasphème et qui a valu la mort du Christ. Et les Juifs n'ont jamais pu assimiler cette... Oui, c'est en train de changer. Mais à la base, c'est le grand point de divergence entre nos deux communautés. Et je pense que c'est des points... D'ailleurs, ces polémiques qu'il y a entre l'islam et le... Elles sont interéchangeables avec du côté judaïsme et christianisme, où on retrouve des polémiques très très proches, très similaires. Encore que l'islam apporte vraiment du nouveau, j'ai envie de dire, dans le sens où il reconnaît d'emblée ce qui a précédé. C'est-à-dire, comme je vous disais, la mission du Christ, sa messianité, sa naissance virginale. Les musulmans attendent le retour du Christ à la fin des temps, n'est-ce pas ? Voilà, moi je profite, l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté de témoigner, c'était aussi pour dire que je pense qu'on est vraiment face à deux religions qui ont un tronc commun, qui sont des religions sœurs, qui a vraiment un chemin qui est possible entre les deux, et que je pense que j'en suis l'exemple le plus vivant, le témoignage le plus... vrai qu'il soit, le plus incarné qu'il soit, parce que je fais la synthèse entre les deux. Et je crois qu'il y a vraiment que les deux religions peuvent cheminer ensemble. J'en suis persuadé. Oui.
Je continue juste sur la foulée, parce que je me souviens très bien ce que tu disais à une époque aussi, que tu ne repoussais pas l'islam. Mais que tu avais envie d'aller à la Mecque pour dire à ton ami Mahomet, qui restait ton ami, que tu allais plus loin, que tu, tu allais plus loin, mais que tu ne renonçais pas à l'islam.
Non, j'ai pas.
Et ça, c'était touchant, si tu veux, ouais. Parce que ça veut dire vraiment que tu n'étais pas dans une situation d'antagonisme.
Non.
Tu étais vraiment de progrès, si je peux dire.
Oui, je suis vraiment dans un rapport de continuité et de... Oui, j'ai l'impression d'aller plus loin. Et puis j'ai l'impression d'avoir écouté l'appel qui m'a été fait. Mais je conçois que pour certains, j'ai pas une vision. Pour moi, tous les musulmans ne doivent pas se convertir. C'est des choses aberrantes pour moi, où tous les juifs se convertir à la religion du Messie. Pour moi, c'est pas... Par contre, je pense que Jésus, peut-être, attend des juifs et des musulmans qui le reconnaissent pour ce qu'il est. Mais pas forcément de le suivre. Jésus lui-même disait qu'il y en a qui n'ont pas besoin. Il y a des justes qui n'ont pas besoin. Qui n'ont pas besoin, qui... Il n'a pas forcément appelé... Enfin, Là, après, c'est des spéculations théologiques dans lesquelles j'ai pas envie de rentrer. Mais... Non, moi je crois vraiment qu'il en viendra des quatre coins de la terre pour entrer dans le royaume. Et j'ai pas une vision un rapport de supériorité dans mon rapport à Dieu. Il n'y a pas des religions qui sont plus près que d'autres ou quoi. Je pense qu'il y a des religions qui dans lesquelles on peut plus donner ou mieux se rapprocher de Dieu, peut-être.
Il y avait peut-être la question de Benoît tout à l'heure.
Déjà, je suis content de te connaître et d'écouter ton témoignage, je pense que comme la plupart de nous ici. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ton témoignage au tout début.
Ouais.
C'est que bon, on a tous notre cheminement spirituel. Toi, tu as eu des expériences mystiques. Moi aussi, comme certains ici, moi c'était à 19 ans, à travers l'Eucharistie, où j'ai vraiment rencontré, j'étais projeté dans la quatrième dimension, etc. Et puis, en fait, au moment où on a une expérience mystique, là, on est différent par rapport aux autres. C'est-à-dire que, comme moi, j'avais une base d'éducation chrétienne, etc., ça a coulé de source. C'est-à-dire qu'après, j'ai pas eu de difficulté culturellement pour que ça s'embrique dans ma vie.
Ouais.
Donc à partir du moment où j'ai ouvert des livres de religion, de mystique, etc., je buvais ça comme du petit lait.
Ouais.
Tout était déjà, les choses étaient à peu près, bon, même si se construit durant toute la vie, j'ai eu beaucoup de facilité
intellectuellement,
culturellement, pour intégrer Dieu, le Christ, l'amour, etc. Et je suis très, très marqué par ton témoignage, parce que je m'aperçois de l'énorme chance, mais aussi de responsabilité qu'on a, nous, en tant que chrétiens, justement de cette chance de ce tissu culturel et au départ, et qu'on a d'une grande responsabilité par rapport à ça, parce qu'on a justement eu beaucoup de chance au départ pour accueillir potentiellement la parole de Dieu, et on nous sera demandé d'autant plus à la fin. Et je suis aussi donc très interpellé par toi, justement, à la difficulté, après justement un appel de Dieu, une expérience comme ça, de se confronter à sa propre vie, à sa propre culture, à son entourage, etc. Et comment il peut y avoir à un moment une confrontation, et ça ne doit pas être évident de vivre ça.
Complètement. Autant dans cette expérience mystique que j'avais eue à l'extérieur de mon corps quand j'avais 20 ans en 2005, là, des choses que je lisais dans le Coran me devenaient vécues. C'est-à-dire qu'il y avait des... Quand on lit des passages dans le Coran, Dieu est le vivant qui ne cesse de donner la vie, qui donne la vie par générosité. Et là, des passages aussi simples, Dieu vit, Dieu est la vie. Et bien là, j'avais senti la vie. J'avais eu un bain de vie. Et je sentais la vie. J'ai senti plein de choses en Dieu, dont la vie. Et là, du coup, je relisais ces mêmes passages avec... je pouvais me les approprier un peu comme toi. par mon expérience de base. Avec mon expérience de base, culturelle de base. Mais effectivement, la révélation du Christ dans ma vie, là effectivement, ça a été beaucoup plus difficile parce que c'était des expériences qui remettaient en cause ma propre vision du Christ. C'est-à-dire que j'avais accès au Christ grâce à l'islam dans une certaine mesure, mais je devais tout découdre et tout réétudier pour pouvoir enfin savoir qui est Jésus, c'est qui il est vraiment, et qui il est pour moi, qu'est-ce qu'il peut être pour moi dans ma vie, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie. Et effectivement, là, ça a été, mais je te dis, ça a été un combat spirituel, c'était un beau combat. Je n'ai pas non plus en train de pleurer tous les quatre matins, mais ça a été très dur aussi. Ça a été parce que ça remet tout en question. On a ce sentiment de tout briser en éclats. C'est très très dur. C'est très très dur. Et aujourd'hui, maintenant que je fais partie de la communauté, que je suis entré dans la bergerie du Christ, bah, c'est sûr que maintenant, je relativise tout ça. Mais quand je le vivais, c'était très dur. Parce qu'on a besoin, je pense que quand on change comme ça de direction, on a besoin de faire une scission. Alors moi, ça n'a pas été de renier. Hein, ça n'a pas été de renier, mais ça a été de couper. Net. C'est-à-dire que j'ai arrêté de pratiquer du jour au lendemain. Toute la vie de prière que j'avais mis des années à bâtir, je l'ai arrêtée. Et donc, du coup, là, le chemin est devenu aride. Parce que quand on n'a plus cette vie de prière, je pense que ça devient très aride.
Aujourd'hui, ça t'arrive de prier comme tu le faisais quand tu étais musulman?
Oui, je pense.
Et tu fais le ramadan?
Non. Non, parce que là, j'ai besoin de marquer la différence à ce niveau-là, au niveau cultuel, en fait.
Alors, en famille, ta famille s'interroge, du coup, non?
Ma famille s'interroge. Alors, je leur en ai toujours pas parlé, parce que le baptême, comme vous le savez, remonte à il y a 11 mois. Et donc, juste avant le décès, il y avait eu le décès de mon père. Donc, ça me semble encore beaucoup trop... beaucoup trop neuf, beaucoup trop récent.
Ce qui est sûr, c'est que là aussi va se rejouer la question de ton rapport avec ta religion d'origine.
Oui, complètement.
Parce que une chose qui est frappante dans ton cas, c'est que tu as eu la chance de vivre une conversion dans un pays laïque. Mmh. Où tu as pu faire ton cheminement sans que rien ne t'influence de l'extérieur, etc. Pourtant, on a entendu tous des récits de conversion de musulmans au christianisme qui sont parfois très violents, avec un rejet de la communauté d'origine, la famille qui considère que tu n'en fais plus partie. Et donc, on peut estimer que dans ces cas-là, on comprend qu'il y ait une volonté de coupure, de renier son passé.
Alors moi, je suis pas dans ce contexte-là, vu que, comme tu le dis, je suis en France, dans un pays laïque où ces tensions ne sont pas exacerbées. Mais effectivement, je pense qu'avec ma famille, il va falloir entrer dans un processus, parce que je compte le dire. C'est vraiment cet événement, ce deuil familial qui m'empêche pour l'instant de le faire et qui me donne l'impression que le temps n'est pas venu de le faire. Mais le Christ, j'en ai pas honte. Je peux en parler d'ailleurs à ce musulman que je connais au boulot, par exemple, auquel je peux en parler. Donc je peux en parler, j'en ai parlé à un certain nombre de musulmans, de connaissances de musulmans que je connais, mais c'est vrai que dans ma famille, ça me semble encore délicat pour la raison que je viens de vous citer. Mais effectivement, pour les pays musulmans, effectivement, c'est un vrai problème. Et je pense que beaucoup sont obligés de le vivre caché. Parce que dans les pays musulmans aussi, on n'a pas la même histoire et le même rapport à la religion qu'en France, où finalement dans les pays musulmans, ils se caractérisent quand même par un rapport à la religion qui est beaucoup plus intégré et infusé dans la société. On ne retrouve pas cette scission entre la religion dans la sphère privée, vécue dans la sphère privée, et l'espace public et laïque qu'on peut retrouver en France. Donc je pense que c'est effectivement la laïcité constitue un terreau favorable à la différence religieuse et au fait de pouvoir choisir sa religion librement. Je pense que c'est beaucoup plus problématique dans des pays qui n'ont pas cette culture politique.
Ta famille globalement est de culture française ou plutôt de culture marocaine ?
Alors moi, mes parents sont nés au Maroc, donc ils sont venus travailler quand ils étaient jeunes en France. Ouais. Par contre...
Quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire quand à 35 ans ou à 20 ans ?
Oui, voilà.
Ouais. Oui, donc ils ont quand même, une culture marocaine.
Oui, ouais. Assez marquée.
D'accord.
Oui.
Ouais. D'accord. Donc il y a cet aspect-là aussi. Je me posais la question en fait de l'impact de l'environnement culturel, indépendamment de la foi.
Ouais.
Si tes parents étaient nés en France, en étant musulman, français d'origine marocaine, mais né en France, les choses auraient peut-être été plus simples, parce que culturellement, ils auraient peut-être été plus imprégnés de culture française et moins de culture marocaine.
Enfin, je les trouve pas mal imprégnés. Oui. Au bout d'un certain nombre d'années de vie en France, mais je saurais pas dire. Mais effectivement, je pense que c'est un vrai problème, passer la question de la liberté religieuse, finalement. Je pense que dans beaucoup de pays musulmans, c'est difficile de la vivre. Il faut pas s'en cacher, mais c'est parce qu'ils sont... ce sont des peuples qui sont aussi très fiers de leur héritage religieux, ce qui est normal. Et ils n'ont pas cette culture, effectivement, du... Après, on trouve quand même beaucoup, dans les pays musulmans, beaucoup de gens qui ne font pas grand cas de la religion. Donc c'est aussi une question de sensibilité personnelle. Mais oui, je pense que c'est un vrai problème et un vrai défi pour le monde musulman. Complètement. Et c'est bien qu'à l'étranger, comme ça, que dans des pays non musulmans, qu'il y ait aussi des profils, un peu comme le mien, qui peuvent aussi témoigner de sans renier leurs origines. En fait.
On va prendre deux, trois questions et puis on s'en va.
Est-ce que tu as pensé à écrire un livre, justement, par rapport au climat qui n'est pas souvent apaisé entre les religions, qui vit un prolongement de la tienne dans un climat d'apaisement? Est-ce que ça ne serait pas valable en ce moment?
Ah ben, tu viens de me donner une bonne idée.
D'écrire. Et alors, je comprends les réserves que tu as par rapport à ta famille. Et je me souviens de tel écrivain anglais, en l'occurrence, Bertrand Russell.
Bertrand Russell.
Qui prévenait sa famille de certaines choses qu'il voulait lui dire, dont il voulait lui faire part. En publiant un livre, toute l'Angleterre était au courant pour le coup. Et sa famille était, comment dirais-je, il y avait peut-être des choses très subtiles et très complexes et très délicates à aborder, qu'il n'aurait pas voulu aborder de front. Et sans doute, à travers le livre, et sa famille l'avait lu et avait compris, on comprend ce que tu veux dire. On comprend ce que tu as voulu nous dire. Est-ce que c'est ses parents, sa famille a pu lui dire. Et je me dis, quelquefois, pourquoi pas, je ne sais pas si on peut comme ça, atteindre sa famille indirectement à travers un livre qui est publié.
Alors moi, j'ai pas cette vocation d'écrire, de témoigner par écrit. J'ai pas, d'une manière générale, j'ai pas la vocation à donner des réponses. Enfin, c'est pas ce que tu voulais dire, hein, mais moi, par contre, c'est plus une vocation de la recherche. C'est-à-dire d'être dans un prolongement de mes études, par exemple, tenter l'expérience du doctorat, et là, pour le coup, d'écrire un bouquin, mais par exemple, sur la littérature arabe chrétienne, où j'essaye d'analyser un petit peu, par exemple, les polémiques islamo-chrétiennes médiévales. Je pense que ça correspondrait plus à mon esprit, ça me passionnerait plus, plutôt que de raconter, plutôt que de parler de moi.
Même sous la forme d'une question-réponse. Un journaliste qui...
Ah oui, bah, c'est ce que je fais parmi vous. Je voilà. Le fais à l'oral. Là. Je le fais à l'oral, finalement.
C'est naturel d'écrire.
Encore une dernière question.
Juste une question. Est-ce que tu penses qu'un dialogue musulman-chrétien sur le plan de la foi est possible?
Je pense. Moi, quand je vois, par exemple, j'avais beaucoup parlé, justement, à l'époque où je vivais ma foi musulmane, avec l'imam de la mosquée de Paris, par exemple, qui est d'une culture et d'une ouverture incroyable.
Dalil Boubaker?
Non. Lui, c'est le recteur, donc il s'occupe davantage de la gestion administrative de l'établissement, mais l'imam de la mosquée de Paris.
L'imam,
celui qui prêche et qui conduit la prière, en fait, avec l'assemblée des fidèles, et qui lui, d'une ouverture... Je lui avais parlé de mes problèmes d'homosexualité de l'époque, et qui me disait qu'il n'avait pas de réponse, par exemple, et que c'était un vrai problème pour lui, qui lui faisait mal au cœur, parce que j'étais pas le premier musulman à toquer à la porte de son bureau pour lui évoquer le problème et pour dire comment on fait. Et donc, il n'avait pas de réponse. Et ce que j'ai aimé, c'est justement son humilité, son ouverture. Parce que je pense que même quand on est d'origine musulmane comme moi et qu'on vit dans un pays où les médias nous rabâchent sans arrêt que l'islam c'est le terrorisme, où c'est la seule vision qu'on a de l'islam finalement, même moi je vous avouerai qu'en allant voir cet imam, j'ai eu un peu peur, hein, j'avais la frousse quand même. Et je me demandais, j'avais peur d'être stigmatisé ou rejeté d'emblée, et non. Je crois que quand on s'ouvre à l'autre, des fois, on peut être étonné de ce qu'on peut découvrir et entendre. Et lui, j'avais été très étonné. J'ai un accueil incroyable et une ouverture. Il n'avait pas de questions à m'apporter. C'était, je crois, ce que je voulais entendre.
Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions irrépressibles...
Ah oui.
Qu'est-ce qui t'a conduit à Dieu, Zacharia? Parce que ça, c'est plutôt l'intérêt comme question. Allez. Qu'est-ce qui t'a conduit à l'association?
Qu'est-ce qui m'a conduit? J'étais venu à l'époque où j'avais fait une tentative de contact juste après avoir eu cette vision du Christ transfiguré. Donc, comme tu le disais, en octobre 2007, juste après cette expérience du Christ transfiguré. C'est le fait que ce soit une association dont la vocation soit d'accueillir des homosexuels chrétiens. Et moi, en tant que musulman à l'époque, ça m'intéressait de savoir comment les chrétiens, justement, pouvaient accueillir leurs propres homosexuels. Mais j'ai fait une petite incursion et rapidement j'en suis sorti, parce qu'à l'époque j'étais encore dans cet équilibre islamique, et puis j'étais encore en train de cheminer, j'étais encore loin d'être arrivé au Christ. Et voilà, donc j'avais pas ressenti non plus le besoin à l'époque, en tout cas, de la fréquenter. Et aujourd'hui, est-ce que j'en ressentirais le besoin? J'en doute, dans le sens où j'ai trouvé quand même un équilibre et j'ai vachement avancé dans les questionnements sur le sujet.
En fait, je me posais la question par rapport au Christ. Est-ce que tu penses que tu aurais avancé aussi bien en restant musulman? En reconnaissant le Christ, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que les musulmans ont besoin justement de reconnaître le Christ, enfin que le Christ attend justement d'être reconnu par les musulmans.
Pour ce qu'il est.
Pour ce qu'il est, voilà.
Avec sa dimension de verbe incarné.
Voilà, de verbe incarné.
Dans l'intégralité de ce qu'il est.
Voilà. Et en fait, en disant ça, est-ce que justement ça implique pas en même temps une transformation de l'islam? C'est-à-dire que
oui.
L'islam, en toi...
Je pense qu'on doit se transformer l'un l'autre, en fait. Je pense que dans ce dialogue interreligieux, je pense qu'il a vocation à nous transformer tous les deux. parce que beaucoup de chrétiens ont toujours une vision très négative de l'islam comme étant, c'est ce que cet ex-musulman me disait, un hérétique, une religion hérétique. Donc je pense qu'on a vraiment quelque chose à s'apporter mutuellement.
Et toi, est-ce que tu penses que tu aurais pu rester musulman et en même temps reconnaître le Christ ?
Oui, je pense que c'est possible. Mais moi...
Mais qu'est-ce qui fait que tu as changé pour te convertir ? C'est-à-dire que tu aurais pu rester musulman et reconnaître le Christ. Pourquoi tu es...
C'est cette dimension d'appel que je ressens, que j'ai ressenti dans ma rencontre du Christ. Il y a une dimension de l'appel, une forme de consécration que aujourd'hui j'identifie comme étant... cette possibilité de suivre un chemin de célibat, mais qui peut être revu ou augmenté par la suite. Mais il y a un appel. J'ai senti qu'en se révélant à moi, j'ai senti que le Christ me disait qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble pour aller vers Dieu et pour me pacifier.
Et qui impliquait une conversion.
Et qui impliquait une conversion, mais la conversion, c'est ce qui nous fait basculer dans la conversion, c'est l'amour.
Ouais.
Et moi, je pense que j'ai... Si à l'époque, j'étais pas capable de... J'avais pas le courage d'aimer un homme, j'ai voulu avoir la liberté d'aimer le Christ, malgré tout et envers et contre tout.
Ça, c'est un très beau mot final, tu vois. Avoir la liberté.
Je pense aussi à ce que vous dites là. Je dirais aussi, dans cet appel à une vocation, je sais pas, qui se déterminera au fil du temps, certainement, il y a aussi ce qui est très important, la dimension du témoin. Et moi, personnellement, je voudrais vous remercier énormément de tout ce que vous avez partagé, parce que c'est même nous, maintenant, en tant que chrétiens, ça nous fortifie dans quelque chose qui nous relance dans cet amour de Dieu. C'est très beau. Merci.
Merci en tout cas.